J'ai réussi enfin à choisir une œuvre parce que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Mais ces films, en fait, m'ont vraiment énormément plu et je prends toujours autant de plaisir à les revoir, assez régulièrement d'ailleurs, tous les ans ou tous les deux ans, je me replonge dans cette série.
Alors cette série n'en est pas encore une, mais elle pourrait le devenir, non ? Un spin-off, l'avant, l'après, les à côté de la famille Corleone. Car j'imagine que vous avez reconnu la mélodie à la mandoline, cinéphile que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans cette 21e visite de la saison 5 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com. Cette semaine, à l'occasion du cinquantenaire du premier film de la trilogie, on rend visite aux parrains, celui de Coppola et celui de Mario Puzo. Allez, retour à Frédéric Pitois, directeur du Théâtre de Verre de Châteaubriant, ici interviewé par la web TV Pulseo en 2010.
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'univers global du film, là, à tout niveau, que ce soit la musique, l'histoire racontée, la façon dont c'est filmé, et cette façon qu'a Coppola de raconter une histoire qui va couvrir quasiment tout le XXe siècle, mais par le biais de flashbacks, va nous faire replonger soit en Sicile, soit aux États-Unis à des périodes différentes. J'avais eu l'occasion de voir d'autres films de lui, mais je crois que surtout ce qui me plaît dans cette trilogie, c'est la façon dont il réussit à raconter une histoire qui est malgré tout très complexe, parce que quand on lit les livres, en fait, c'est très riche en nombre de personnages, et il réussit d'une manière très 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 simple et très fluide à nous emporter, à nous faire vraiment vibrer en fait sur la vie de cette famille qui, au moins que l'on puisse dire, n'est pas forcément très honorable, mais pour lequel en fait, moi je me suis vraiment attaché à des personnages en fait que je trouve très très touchants.
Mon père est exactement comme n'importe quel homme d'affaires. Il est comme tous les gens, responsable de vie humaine.
Bon, par où commencer ? Eh bien, par le début. Tiens. Allez, petit cours de cinéma par le youtubeur Simon Says en septembre 2017. Alors, en guise d'intro, on a ici une exposition à l'efficacité parfaite.
Ce qu'on appelle l'exposition, c'est l'ensemble des informations qui sont communiquées au spectateur pour lui permettre de comprendre l'univers du film. En effet, quand nous regardons un film pour la première fois, nous ne connaissons rien des règles qui régissent son univers, ni des personnages qui l'habitent, de leur histoire, de leur personnalité, de leur statut social, des rapports entre ces personnages et des enjeux qui en découlent, etc. Les scénaristes doivent donc se creuser la tête pour que ces informations soient montrées ou énoncées de manière naturelle, sans nuire à l'immersion du spectateur dans le film.
Cette longue scène de mariage est mythique. Comment faire connaissance avec les principaux personnages sans dévoiler qui est crapule et qui ne l'est pas ?
L'écueil dans lequel tombent souvent les films par manque d'inspiration ou d'ambition artistique, c'est de trop dire les choses et de ne pas assez les montrer, ce qui est quand même un comble pour un art visuel comme le cinéma. Il s'agit d'ailleurs là d'une règle tacite de l'écriture scénaristique, le fameux « show, don't tell ». En la matière, la séquence d'introduction du parrain n'est pas particulièrement originale, mais c'est un modèle d'efficacité. Déjà, l'habileté du film est de faire que cette première séquence se déroule pendant un mariage, ce qui est un bon prétexte pour inviter tous les personnages qui auront un rôle important dans l'histoire à venir. Cette séquence est donc un peu l'antichambre du film, on y rencontre tous les personnages avant que l'intrigue ne commence. On a donc un aperçu de leur personnalité, de leur passé, de leur statut, des rapports qu'ils entretiennent entre eux, etc. Cette séquence réussit également le juste équilibre entre le show et le tell. En effet, beaucoup de choses nous sont d'abord montrées pendant ces 25 premières minutes. D'abord, la richesse et la puissance de la famille Corleone, à laquelle la presse s'intéresse d'ailleurs de très près. Mais ce qu'on apprend surtout, ce sont les traits de caractère des personnages principaux. Par exemple, on découvre que Barzini est un homme puissant qui veut rester dans l'ombre, ou bien que Fredo est quelqu'un de gentil mais faible, ou encore que Sonny est quelqu'un de beaucoup trop impulsif, etc., etc. Et toutes ces informations auront une incidence plus tard dans le film. Ce sont donc des setups dont les payoffs seront distillés tout au long du récit.
Setup, on pose dans le décor un élément ou un mot, un nom dans une réplique, parfois ni vu ni connu, mais qui aura son importance plus tard. Payoff, l'élément, le mot, le personnage déjà évoqué prend toute son importance.
Et donc, comme je le disais, cette séquence a aussi beaucoup recours au dialogue pour nous faire passer des informations. Et pour que tout ça paraisse naturel, le film utilise la bonne vieille méthode qui consiste à introduire, dans le premier acte, un personnage complètement extérieur à l'univers du film et qui va le découvrir en même temps que nous. Ce personnage servira donc de vaisseau, d'avatar pour le spectateur. C'est à travers lui qu'on se projettera dans le film. Son rôle au début de l'histoire consistera surtout à poser des questions, ce qu'on pourrait appeler le syndrome du bleu-bit ou syndrome Luke Skywalker. La plupart du temps, ce rôle d'ingénu revient au héros du film, qui pose généralement plein de questions à son mentor. Mais dans Le Parrain, notre avatar sera Kay, la petite amie du héros du film, qui rencontre la famille Corleone pour la première fois. C'est donc elle qui interrogera le film à notre place.
Please, Michael, tell me. See that scary guy over there? If he's your brother, why does he have a different name?
Well, how'd he do that?
Well, who is he? What's his name?
What was that?
What's that? He did? How?
Et les réponses formulées par Michael sont adressées en réalité au spectateur et ne servent quasiment qu'à faire de l'exposition.
His name is Luca Brasi. He helps my father out sometimes.
La force de cette séquence, c'est aussi de nous présenter cette famille dans un moment joyeux. D'ailleurs, une grande partie de ces scènes a volontairement été improvisée sur le tournage. Beaucoup des moments de joie qui sont filmés sont donc bien réels. Autre exemple, pour l'anecdote, cette scène où le personnage de Luca Brasi répète ce qu'il va dire au parrain a été rajoutée au script parce que l'acteur qui jouait Luca Brasi était incapable de livrer une performance convaincante dans sa scène face à Marlon Brando. La bonhomie et la maladresse de Luca Brasi doivent donc beaucoup à son interprète. Ainsi, la frontière entre les acteurs et leurs personnages est rendue encore plus floue au cours de cette séquence, ce qui donne beaucoup plus d'humanité à la famille Corleone, qui se montre sous un jour plutôt sympathique.
Dans le genre scène culte, celle du parrain, Marlon Brando, du coton dans les bajoux, qui prend possession d'un type en l'humiliant.
We've known each other many years, but this is the first time he ever came to me in the Council for help. I can't remember the last time that he invited me to your house for a cup of coffee, even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship, and you were afraid to be in my debt.
I didn't want to get into trouble.
I understand. He found paradise in America, had a good trade, made a good living, police protected you, and there were courts of law. He didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married, and you ask me to do murder. Money.
I ask you for justice.
That is not justice. Your daughter is still alive.
We're going to suffer then. She suffers. How much shall I pay you?
Bonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you.
Be my friend? Godfather?
Good. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.
Grazie. Yes, madame.
Un jour, et ce jour ne viendra peut-être jamais, je vous demanderai de me rendre un service. Mais jusqu'à ce jour, acceptez cette justice comme un cadeau le jour du mariage de ma fille.
J'ai aucune chance.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Vous savez qui est mon père ? Des tueurs vont essayer de l'assassiner.
Toi qui voulais pas tremper les mains dans le business.
Je croyais que tu ne voulais pas devenir comme ton père.
J'ai jamais voulu ça pour toi.
Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Jamais.
Michael Francis Rizzi. Renonces-tu à Satan ?
J'y renonce. Ne pose pas de questions sur mes affaires.
Est-ce que c'est vrai ?
Non !
Le Parrain est né d'un roman de Mario Puzo. Oh, il en avait fait d'autres, mais celui-ci fait un carton. En librairie, 9 millions d'exemplaires en 2 ans. Et au cinéma, premier film à atteindre les 100 millions de dollars en recettes et 4 millions d'entrées en France. Mario Puzo et Francis Ford Coppola ont parlé du travail accompli ensemble autour de 1990. Mario Puzo.
It all began when the publisher of my second
Tout a commencé lorsque l'éditeur de mon deuxième roman, The Fortunate Pilgrim, Le Pèlerin Fortuné, a dit « J'aurais aimé que vous ayez plus de mafia dans le livre qui se serait mieux vendu et j'ai pensé que c'était une bonne idée, alors j'ai écrit un plan pour Le Parrain et je lui ai montré et il l'a refusé et environ 8 autres éditeurs l'ont refusé. » Puis Putman, sans même lire le plan, et puis deux autres m'ont demandé de montrer et de parler à tous les éditeurs. Alors je suis allé là-haut et je lui ai juste raconté quelques histoires de mafia que je connaissais et m'ont dit d'aller de l'avant. Alors je m'y suis mis et j'ai écrit le livre. Coppola.
I did the screenplay, the first draft of it, and then.
J'ai fait le scénario de la première ébauche, puis j'ai contacté Mario, puis nous avons travaillé ensemble tous les deux. Et je suis arrivé au script que nous allions utiliser. C'était très proche du livre et c'était mon désir. Il y avait bien sûr une scène très vivante du livre, je veux dire tout le Parrain en fait. Ce qui rend le film Le Parrain merveilleux vient du livre, c'est pourquoi sur le titre, à ma demande, il est écrit Le Parrain de Mario Puzo, parce que le livre avait tout pour plaire. Mario Puzo, nous avons écrit séparément. Il m'a envoyé ses trucs, je lui ai envoyé mes trucs et il a pris la décision finale et tout ce qui serait dedans. Coppola, il y a comme si Le Parrain était en grande partie presque un scénario original. Il a retiré certaines des parties historiques du livre, mais toute l'histoire moderne a été en quelque sorte inventée par moi, puis plus tard, Mario est revenu. Nous travaillons toujours ensemble. Je faisais en quelque sorte le premier brouillon et ensuite il le rendait bon. Puzo, toutes les scènes qui font un flashback sur Vito Corleone, c'est en soi un roman. Il était donc très facile de les arracher, vous savez, et de rester une minute comme Francis l'a fait, c'était génial.
Parce que le réalisateur et les scénaristes savent bien que nous irons voir le film en sachant qu'il s'agit d'une histoire de famille mafieuse, et que nous risquons donc d'être méfiants d'entrée de jeu. Par exemple, ce petit papy tout mignon qui perd son dentier en chantant peut très bien avoir trucidé des dizaines de gens au cours de sa vie. C'est pour ça que le personnage qui nous introduit à cet univers est présenté comme étant en rupture. Michael est quelqu'un de rassurant, apparemment sûr de lui et de ses convictions. Il tranche même par sa tenue d'ailleurs, puisqu'il porte un uniforme qui semble sous-entendre qu'il se plie aux lois de son pays quand sa famille les enfreint quotidiennement. C'est a priori un héros en lequel on peut avoir confiance et que l'on a envie de suivre dans ses aventures.
C'est ma famille, Kay. C'est pas moi.
Certes, mais les Anglos ne courent pas les rues, encore moins chez les Corleone. Comme lorsque l'héritier débarque à Vegas pour affaires.
Si tu as pris Freddy, c'est parce que la famille Corleone a mis des masses de fric dans ton casino et parce que les amis qu'on a ici ont garanti ta sécurité. Alors si on parle business, parlons business.
D'accord, parlons business, Mike. D'abord, vous êtes coulé. Les Corleone sont plus en mesure de jouer les gros bras, tu le sais bien. Ton père tient plus de beau. Votre famille est en train de se faire déloger de New York par Barzini. Non mais qu'est-ce que tu t'imagines? Que tu vas arriver dans mon hôtel et repartir avec? J'ai parlé à Barzini. On va s'entendre tous les deux et c'est moi qui resterai le patron.
C'est pour ça que t'as giflé mon frère en public?
Ah, non, c'était rien, Mike. Tu sais, des fois, on est nerveux, ça veut rien dire. Ouais, des fois, il se met en rogne une fois de temps en temps, mais lui et moi, on est de bons copains, pas vrai, mon?
C'est que j'ai une boîte à faire tourner, moi. De temps en temps, il faut cogner un petit peu pour que ça tourne en rond. On a une Freddy et moi, et je l'ai remis à sa place.
Tu remets mon frère à sa place?
Il sculbutait toutes les serveuses les unes après les autres! Il n'y avait jamais de fille pour servir les clients. Tu te fous de moi, Mike?
Je repars à New York tout à l'heure. Pense à un prix.
Tu sais qui je suis? Je suis Mo Green. J'ai buté mon premier bonhomme à l'âge où tu pissais encore au lit.
Attends, Mo, j'ai une idée. Attends une seconde. Tom, c'est toi le consigliere. Il faut que tu parles à papa. Il faut lui expliquer que...
Ton père se retire des affaires. C'est Michael qui est chargé des intérêts de la famille. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à Michael.
Mike, personne à Las Vegas n'a jamais traité Mo Green de cette façon!
Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Jamais.
Frédéric Pitois à Châteaubriand.
Je ne sais pas s'il a voulu les rendre attachants, mais il a réussi à tirer un portrait psychologique de quasiment chacun des rôles principaux, en tous les cas, qui font que ces personnages, en fait, sont tellement crédibles qu'on a l'impression de côtoyer presque des gens du quotidien, et surtout à leur donner une certaine humanité, malgré l'horreur de certaines décisions qu'ils peuvent prendre. Là, c'est une violence, en fait, qui est très, très posée, et qui est fort, fort inquiétante, mais qui est, à mon avis, plus proche de la réalité que les films de gangsters à la Al Capone.
Ils prennent des types sales, ils n'aiment pas des nerveux qui perdraient leur sang-froid. Après, on n'est pas des tueurs, malgré ce que ce croque-mort s'imagine.
Il y a une trentaine d'années environ, dans un doc intéressant, Coppola a détaillé sa méthode d'adaptation avant le travail d'avec Puzo.
When I realized that I was actually going to make a movie out of the novel The Godfather, I sat down and began to.
Quand j'ai réalisé que j'allais faire un film à partir du roman Le Parrain, je me suis assis et j'ai commencé à lire le livre très très attentivement. Et je pense qu'il est important de mettre vos impressions sur la première lecture, car ce sont les premiers instants sur ce que vous pensiez être bon ou ce que vous ne compreniez pas, que vous pensiez être mauvais. Et donc j'ai pris le livre et j'ai écrit mes commentaires directement sur le livre lui-même. Et après avoir parcouru le livre avec ses quelques notes et commentaires, j'en ai ensuite fait un livre rapide. Un notebook, un livre rapide, est une sorte de vieille tradition du théâtre. Et en gros, vous prenez un classeur à feuilles mobile et je me suis assis là moi-même sur le canapé et j'ai découpé ce trou au milieu de la page. Puis j'ai désossé mon livre, feuille à feuille, où j'avais fait ces commentaires et j'ai moi-même tout collé. Chaque page du roman sur deux feuilles de papier comme celle-ci afin que, bien sûr, vous puissiez voir les deux côtés. Et puis, j'ai mis de très bons œillets qui renforcent le tour des trous. Donc, j'en ai mis des deux côtés. Laissez-moi vérifier. Oui, cela fait des années. J'ai fait plusieurs groupes parce que je savais que ce livre de base allait être mon type de document principal sur lequel je travaillerais et je l'ai appelé le cahier de notes du parrain, Godfather Notebook. Et curieusement, j'ai décidé de décomposer chaque section avec ses critères clés. Le premier est imposant car c'est la scène du mariage. En 1, le synopsis, pour résumer cette partie singulière du livre ou du paragraphe, ou pour dire ce qui s'était réellement passé historiquement. En 2, il y avait le temps, c'est-à-dire comment ce qui s'est passé dans l'histoire à ce moment-là, le rapport à la période. Dans les années 40, donc après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique avait un certain style. Chaque scène était en relation avec une période. Alors, quand la Paramount m'a dit que le film n'allait pas être tourné, la période allait être tournée contemporaine, c'est-à-dire les années 70, le fait que nous allions tourner à Kansas City, j'ai vraiment, vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à accepter cela et j'ai fait un gros point. Qui devait être un point, et je ne me souvenais même pas pourquoi je l'avais fait, car évidemment, cela allait rendre le film plus cher, ce qui n'est pas du tout ce qu'il voulait. Et ce devait être parce que je venais de parcourir ce vaste livre épais en écrivant des notes sur la raison pour laquelle cela devait être. Vous savez, ce que les années 40 avaient à voir avec l'imagerie de l'histoire dans le ton, ce sont bien sûr des images qui semblent se tenir de la lecture ou même le ton de l'histoire. Au cinéma, Le Parrain est une trilogie. Plusieurs projets ont voulu une suite. Francis Ford Coppola. Beaucoup de scripts pour cette suite du Parrain que d'autres ont écrit concernaient les trafics de drogue et vous connaissez les grands cartels de la drogue et beaucoup d'entre vous avaient tiré ce que vous aviez et je suis sûr que j'y suis allé le plus gentiment de manière inhabituelle en faisant aucune histoire avec eux. Le genre de retour aux racines siciliennes, mais c'est ce que mon instinct m'a poussé à faire. Mario Puzo. J'espère vraiment qu'ils feront un Parrain 4 parce que je vois si clairement que c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment marcher, que ce serait dans les années 1920 que le Sonny joué par Johnny Caan. Il faudrait trouver un nouveau Jimmy Caan qui serait le héros porteur du film aux côtés du Parrain. Le parrain serait plus important et j'ai écrit la moitié du scénario. Et De Niro, comme il est primordial. Et je pense que ce serait si parfait pour le public de voir la famille quand Michael était un petit enfant faire son baptême, comment Sonny devient un meurtrier et comment le parrain a construit toute sa force quand il aide à monter ses co-dirigeants. Coppola, la Paramount possède le parrain et ce serait à eux d'aller voir Mario Puzo et de lui demander de l'écrire. Ils savent qu'ils le feraient, mais ils ne font pas cette offre. Mario Puzo, je pense que c'est tellement évident, comme tu sais que je le souhaite. C'est l'une des fois où j'aurais aimé avoir le pouvoir d'Hollywood pour faire le film, que j'adorerais avoir ce film moi-même. Qui dit mariage dit photo de famille, et Kay ne déroge pas à la règle. En entrant dans le cadre, elle entre aussi dans l'histoire de la famille.
Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer aux choses sérieuses. Et en même temps que Kay est prise en photo, qu'elle est donc prise dans la pellicule, nous sommes également pris par le film. Nous voulons voir la suite de l'histoire. On a donc le sentiment de quelque chose d'irréversible face à ce plan. Nous sommes maintenant liés à ces personnages sans retour possible. Et à partir de ce moment, nous nous retrouvons embarqués, prêts à vivre une histoire plus grande que nous. Nous allons passer près de 3 heures aux côtés de la famille Corleone, qui nous révélera petit à petit sa vraie nature et que nous verrons se déliter à petit feu. Nous assisterons aussi impuissants à l'accomplissement du destin tragique de Michael, se métamorphosant au cours du film en génie du crime et s'éloignant de plus en plus de nous au fil de son ascension jalonnée de cadavres. Et quand nous n'en pourrons plus d'avoir vu tant de violence, quand le protagoniste aura commis l'impardonnable et que nous ne reconnaîtrons plus le héros que nous aimions, en lequel nous avions confiance, quand nous ne pourrons plus cautionner le moindre agissement de la famille Corleone, eh bien, ce film qui nous avait accueillis à bras ouverts finira par nous claquer la porte au nez.
En plus d'une œuvre cinématographique, on a l'impression d'assister à un opéra, du fait de la présence et de la qualité de la composition musicale, mais aussi surtout la façon dont les plans sont filmés en résonance avec la musique. Il y a une symbiose parfaite entre l'image et la musique.
Et cette musique est signée d'un des maestros italiens les plus iconiques du cinéma, Nino Rota. Bon, en effet, Coppola voulait un Italien et au final, la Paramount voulait mettre le paquet. Donc c'était lui ou Morricone. Sans doute Morricone avait autre chose à faire et Nino Rota a davantage une couleur à la fois très classique et très italienne. Ainsi va se terminer cette 21e visite de la saison 5 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa et RadioAlpa.com. Diffusion le samedi et le lundi à midi, podcast à venir sur le site de la radio et réécoute libre sur le Mixcloud de l'émission Le Panthéon des Cousus. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans la chanson extraite du film Speak Softly Love, parle plus bas en français, ici dans un medley de 4 versions, la japonaise Misato Watanabe, en 2012, Dalida en 72, l'ukrainienne Sofia Rotaru en 75 et l'italien Gianni Morandi en 72 par la Pio Piano. Bonne semaine à toutes et tous, à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, préférez les cannelloni aux flingues. やがて二人の朝が来る溢れる光が頬の涙を映し出す愛する心に言葉はいらないどうぞ一人で泣かないで忘れかけてる悲しみを窓から逃がしてそっと二
Laisse le flingue. Prends les cannelloni.